Salut à tous et bienvenue sur ce tout premier podcast. Cet épisode est le tout premier d'une longue série, en tout cas je l'espère, qui sera consacrée à l'élevage des fourmis, mais plus globalement au monde des fourmis, avec à chaque fois des invités différents sur des sujets bien différents. Pour ce premier épisode, je serai en compagnie de Fourmis des Plaines, une personne très sympa que j'ai pu rencontrer il y a quelques mois et que j'espère revoir en 2022 si tout se passe bien. Ce podcast abordera en première partie la question la plus importante, comment se lancer dans l'élevage de fourmis. On verra comment lui et moi avons découvert le monde fascinant des fourmis et de l'élevage de fourmis, ainsi que de nos erreurs, ce qu'on trouve fascinant et plein d'autres choses super sympas. Et je pense que c'est le thème tout trouvé pour lancer un podcast sur les fourmis. Dans la deuxième partie de ce podcast, on parlera un peu de sa chaîne YouTube et notamment sa façon de raconter une histoire autour de ses colonies de fourmis. Voilà pour le plan global, n'hésitez pas à laisser une note positive à ce podcast si vous voulez voir de nouveaux épisodes et à me suivre sur ma chaîne YouTube Hans Fourmi. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Eh ben écoute, salut à toi Jérémy, du coup alias Fourmis des Plaines. Je suis très content de t'avoir pour ce tout premier podcast. Je suis sûr que tu te demandes qu'est-ce que je vais te poser comme question, de quoi on va parler. Mais voilà, je suis super content de t'avoir pour ce tout premier podcast.
Bah salut, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je me demande un petit peu de quoi on va parler, mais je me réjouis de découvrir ça.
Et faut savoir que du coup, nous, de notre côté, on est en Zoom parce que c'est un peu plus sympa quand même de voir notre tête.
Oui, on n'a pas l'impression de regarder juste un mur.
Et encore, c'était mon idée de base. Heureusement que tu m'as dit, et si on faisait ça en Zoom? Du coup, là, pour introduire un petit peu la chose, l'idée de ce premier podcast, ça va être entre une conversation et une interview, c'est-à-dire que ça va être une discussion qui va se concentrer un peu plus du coup sur Fourmis des Plaines, qui est notre invité du jour, mais ça va quand même rester une discussion assez conviviale et qui va se concentrer sur un sujet très important qui est se lancer dans l'élevage de fourmis. Dans une première partie où on verra un petit peu comment bah, toi tu t'es lancé dans l'élevage de fourmis, un petit peu ce milieu-là, on parlera aussi de moi, comment je m'en suis lancé dedans. Et un peu plus vers la fin de ce podcast, on parlera un petit peu plus de ta chaîne, qui d'ailleurs vient de passer les 2000 abonnés.
Wouh !
Du coup, est-ce que pour commencer, pour introduire le sujet, tu peux te présenter d'abord un petit peu toi, puis aussi ta chaîne ?
Jérémy, du coup j'ai créé la chaîne Fourmis des Plaines, je crois que ça fait 2 ans et demi maintenant. Ça faisait longtemps que je regardais les vidéos de Myrmécologie et au bout d'un moment je me suis dit mais pourquoi pas en fait partager ça. Ça partait de l'idée aussi, on avait un groupe WhatsApp avec des amis que j'avais essayé de recruter pour commencer l'élevage et quelqu'un avait proposé de faire des vidéos. Et voilà, dans les grandes lignes, je crois que ma vie personnelle n'est pas forcément très intéressante dans ce contexte, à savoir que ça n'a rien à voir avec les fourmis, ça n'a rien à voir avec l'audiovisuel, mais du coup j'apprends au fur et à mesure et je crois que j'ai encore énormément de choses à apprendre.
On n'a jamais fini d'apprendre, surtout sur l'univers de YouTube et des fourmis associées, il y a des possibilités tellement immenses, comme le prouve ce podcast. Hein.
C'est ça, exactement, c'est un peu innovant, c'est bien.
Ouais, non mais je trouvais que c'est sympa dans nos vidéos, on n'a pas assez de... C'est trop condensé, là je voulais qu'on ait le temps de discuter, de parler, de raconter comment on est arrivé à élever des fourmis, comment toutes nos erreurs qu'on a pu faire, toutes ces choses que je trouve au final passionnantes.
C'est vrai que sur YouTube, on est un peu drillé par l'audience, on va dire. On est obligé d'aller un peu droit au but, on est obligé d'éviter de se répéter. Il ne faut pas qu'on parle trop longtemps des choses. Là, c'est agréable. Effectivement, on va pouvoir se donner du temps.
Exactement. Alors, avant de passer à la première partie, j'ai une dernière petite question. Parce qu'au final, on ne te connaît pas trop. Et du coup, c'est vrai que certains sujets ne sont pas forcément intéressants. Mais sinon, à côté des fourmis... quels sont un petit peu tes loisirs, tes passions et ce que tu peux aimer à côté des fourmis?
Bah oui, j'ai quand même des choses à côté des fourmis, même si ça me prend beaucoup de temps. Mais non, je joue au football depuis de nombreuses années. J'avais fait une pause pendant 5 ans, puis là j'ai repris maintenant depuis 5 ans. Et du coup, ça me permet de me maintenir un minimum en forme parce que les années pèsent quand même gentiment. Et la pandémie n'a pas aidé de ce côté-là avec la fermeture des terrains. Donc ça, je continue avec une équipe de vieux, on va dire ça comme ça. Sinon, j'aime bien la lecture. Là, je passe quand même beaucoup de temps à lire. Alors, ces derniers temps, je suis dans des livres un peu de science-fiction et fantasy. J'avais eu toute une période où j'avais dévoré des Warhammer 40 000 sur la série de l'Hérésie d'Horus. Maintenant, je me suis un peu lassé de ça, donc je passe un peu sur d'autres choses. Et sinon, en hiver, j'essaye de faire un peu de snowboard, même si ça devient de plus en plus compliqué de se trouver du temps pour prendre une journée entière à la montagne. Mais je faisais énormément quand j'étais adolescent. Je faisais 2, 3 fois par semaine. Et du coup, là, ça manque un petit peu, mais la vie est ainsi faite.
C'est vrai que c'est pas mal de faire pas mal de choses à côté. Moi aussi, je fais un petit peu de sport à côté, je lis pas mal ou encore un petit peu de musique aussi. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de temps pour faire ce qu'on veut, pour faire des activités à côté. On se laisse entraîner et on a de moins en moins de temps.
C'est ça, mais on est très bon pour se dire, il faut que je trouve du temps et de ne pas le trouver quand même.
Allez, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet. C'était pas mal, je trouve, comme introduction pour présenter le personnage. Du coup, parlons de ta passion pour le monde des fourmis dans un premier temps, et plutôt que juste les fourmis, voilà le monde, comment tu t'es lancé dans tout ça. Ce qui en vient à ma première question, comment ça t'est venu, comment tu as découvert ça?
Mais alors je vais remonter beaucoup en arrière avant même que je sache que ça existe, l'élevage de fourmis, et je crois que je devais avoir environ 13 ou 14 ans. J'étais à l'école, au secondaire 1, comme on appelle ça en Suisse, je ne sais pas comment on appelle ça en France, et il y avait une bibliothèque à l'école dans laquelle je n'avais jamais mis les pieds, et puis je me suis dit, bon, je cherche un livre, et j'étais tombé sur la trilogie des fourmis de Bernard Werber, et j'avais adoré le premier livre. J'avais été relativement déçu par le deuxième et je ne suis jamais arrivé au bout du troisième. Et je gardais ça un peu en tête comme ça et je suis retombé quand j'avais 25 ans, donc 10 ans plus tard à peu près. Je suis retombé sur une édition de poche de la trilogie. Je me suis dit, ah mais génial, je vais relire ce livre et voir s'il est aussi bien que dans mes souvenirs. Et de nouveau, j'ai adoré le premier livre, j'ai été très déçu du deuxième et je suis jamais arrivé au bout du troisième. Mais à partir de là, je me suis dit, mais franchement, les fourmis, c'est trop la classe. Je suis sûr que ça doit être possible d'en avoir à la maison. Et j'ai commencé à regarder sur Internet, parce que quand j'avais 14 ans, Internet était assez balbutiement. Enfin, la démocratisation d'Internet, on était assez balbutiement. Je crois que peut-être qu'on a eu le premier ordinateur à la maison avec une connexion Internet, les vieux modems 56K qui faisaient beaucoup de bruit. Enfin bref, je m'égare. Et je suis tombé sur le forum de myrmécofourmis.com à l'époque, .org aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que ça se faisait, qu'il y avait beaucoup de gens, et puis que c'était relativement accessible. Alors j'ai commencé à regarder sur YouTube s'il se passait des choses, et là j'ai aussi découvert du coup des chaînes, Snake Reptile en l'occurrence en premier, et au fur et à mesure des nouvelles chaînes, il y avait J-Ament aussi que j'aimais beaucoup, et Instant Reptile à l'époque, et ensuite il y a eu la création de chaînes au fur et à mesure, c'était Suisse Fourmi, j'aimais beaucoup la vie de mes fourmis. Enfin bref, et j'ai commencé à me dire, mais ce serait top, mais je veux trouver moi la première reine et je veux faire tout le parcours. Alors j'ai essayé d'embrigader des amis justement pour qu'on soit, je me retrouve pas tout seul là-dedans. Et j'avais deux amis qui étaient assez chauds. Donc je leur ai envoyé un document Word, voilà comment est-ce qu'on trouve des reines, voilà les conditions et tout. Et puis j'ai dit, bah moi je commence cette année, je vais essayer de trouver. J'avais 30 ans à l'époque. Commence à dater un petit peu. Et ces deux amis se sont retirés du projet. On dit non, mais finalement, on préfère profiter avec les images que tu vas nous envoyer et tout ça. Donc je me suis retrouvé un peu tout seul, mais avec un groupe WhatsApp dont je parlais avant. Et j'ai commencé à chercher des fourmis. Et je m'étais dit, je me donne 3 ans pour réussir à fonder moi-même la première colonie, sinon j'achèterai moi une fondation. Et les premières années ont été ponctuées d'échecs, étant donné que j'habitais dans une relativement grande ville à l'échelle suisse, hein, mais donc une grande ville, et j'habitais dans un immeuble au centre-ville, et c'est pas là qu'on voit le plus de fourmis. J'avais un balcon qui faisait 1,50 m carré, quelque chose comme ça, 2 mètres carrés. Et du coup, j'en trouvais pas beaucoup. J'ai été me balader pendant des heures dehors pour en trouver. Et je crois que j'avais trouvé la première gym que j'avais trouvée, c'était une Solenopsis fugax. Et puis, mec, le gastre écrasé. Enfin, elle est morte après la diapause. Et voilà un peu comment je me suis retrouvé dans ce monde étrange, mais assez fascinant de l'élevage de fourmis.
Et eh ben, c'est super marrant comme introduction parce que au fur et à mesure que je pose cette question à des personnes, j'ai l'impression que beaucoup on a eu le même cheminement, parce que moi c'est pareil, il y a mes 12-13 ans, je suis tombé sur la trilogie de Bernard Werber, Les Fourmis. Moi j'ai finalement, c'est vrai que le deuxième et le troisième était un petit peu moins bien, mais j'ai un côté moi passionné qui du coup je suis tombé dessus, j'étais comme un fou, du coup j'ai tout enchaîné les 3 tomes d'affilée, et là je me suis dit, ça y est, moi aussi je veux tester. En plus c'était la période où moi je viens de la campagne, du coup toute cette nature aux alentours, j'essayais d'attraper des grillons, des choses comme ça, et j'essayais de les faire, de les observer et tout, mais au bout de quelques jours, je trouve que c'était un peu plus ennuyeux, et je me suis dit, mais les fourmis, c'est fou, avec le côté social, avec toutes les espèces, avec elles ont toutes des couleurs différentes, des fonctionnements, je me suis dit, mais alors ça va jamais me lasser, et du coup, après avoir lu Bernard Werber, j'ai décidé de chercher aussi dans mon jardin. C'était pareil, j'ai eu un petit peu de mal, si j'avais trouvé, moi je crois que c'était une Lasius SP noire, ma première que j'avais trouvée, et rapidement j'étais tombé amoureux des Messor barbarus,
Les fameuses.
du coup je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans, avec du coup une Lasius et une Messor, pour voir dès le début aussi la différence entre les deux comportements, la couleur et tout. Et du coup c'est assez marrant, on est beaucoup à commencer avec la fameuse trilogie.
C'est ça. Mais tu sais, c'est marrant que tu dises aussi que quand tu étais jeune, tu attrapais les grillons, tout ça. Moi, j'ai aussi passé mon enfance et mon adolescence à la campagne. Et effectivement, ramasser aussi, observer tout ça. Mais quand j'ai recommencé l'élevage de fourmis, hein, ça faisait 10 ans que j'habitais en ville, quelque chose comme ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait des années que j'avais plus vu de fourmis volantes. Ça faisait des années que je voyais plus en fait les insectes qu'il y avait au sol, parce que dans la ville, il n'y en a pas. Puis quand je me déplace, c'est pour aller à un certain endroit. Et quand j'ai commencé à me lancer dans l'élevage de fourmis, j'ai redécouvert tout ce monde qu'il y a à nos pieds. Avec mais des trucs bêtes, les gendarmes, les sauterelles, les grillons, tout ça que je ne voyais plus en fait jusque-là. Et il y a ce côté qui est assez amusant, et je pense que ce livre de Bernard Werber a aussi, pour nous deux visiblement, en tout cas, donné envie d'aller voir et d'aller comprendre un petit peu c'est quoi ce monde à nos pieds.
Ouais, bah, je suis exactement d'accord avec toi. Je me suis posé aussi la même question. Je me suis dit, mais par exemple, des essaimages, quand il y a une centaine de fourmis volantes, comment je peux ne pas avoir fait attention à ça, alors que c'était sous mes yeux, qu'il y en avait une centaine? Et c'est là qu'on se rend compte qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et dès qu'on pense à re-regarder les choses, finalement, on se rend compte bah, qu'il y a tout un univers. Et d'ailleurs, ce que tu viens de dire. Ça me fait penser à la vidéo avec le tilitropode où on est dans un musée installé une énorme colonie de fourmis, et
Ah, t'es ouf.
une des personnes là-bas nous a dit que un des objectifs du musée c'était de faire prendre conscience aux gens à travers une énorme colonie qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes que ce qu'on croit à nos pieds, et le fait de les mettre en évidence, ça peut pousser en fait à y prêter plus attention lorsqu'on part du musée. Du coup, eux aussi avaient vraiment cette idée de mettre une fois en avant pour que quotidiennement les gens fassent un peu plus attention à ce qu'il y a par terre et autour de nous.
Et si tu regardes par terre, il y a des fourmis partout, tout le temps. Enfin, où que
Ouais.
tu regardes, je me suis amusé quelques fois, mais où que tu regardes, tu vas voir une fourmi. Et c'est dingue qu'en fait, on les voyait plus. Ou non, c'est peut-être les années qui passent, la fureur du quotidien qui prend le dessus, le travail, tout ça, je sais pas, mais il y a quelque chose de mon côté, en tout cas, qui était assez saisissant de ce côté-là.
Ouais, et puis je sais pas si tu te rappelles, mais, enfin, en tout cas moi de mon côté quand j'étais petit je me disais ah bah il y a des fourmis noires et des fourmis rouges et c'est tout,
Oui!
alors oui non mais alors oui mais finalement il y en a beaucoup plus et c'est vrai que très rapidement même sans trop s'y connaître on peut déjà voir que elles sont toutes différentes, et ça que je trouve fou, dès le début sans trop s'y connaître on peut voir qu'elles sont toutes différentes, qu'il y a énormément de choses.
C'est vrai, il faut prendre le temps de les regarder bien. Alors, par contre, c'est vrai que quand j'étais petit, il y avait les fourmis rouges qui font mal et puis les petites fourmis noires.
Exactement. Et du coup, tu as commencé à aborder le sujet, mais comment tu t'es réellement lancé dedans et au niveau de, bah, par exemple, de te renseigner, tes premières colonies, etc. Parce que tu as dit, du coup, tu avais fait un document Word, mais par quoi s'est passé le fait de se dire, bah, par exemple, ton premier achat, vu que tu disais que tu as eu du mal à en trouver finalement, et voilà, comment ça s'est fait, ces premières étapes dans le concret?
Dans le concret, donc il y a eu cet échec avec une Solenopsis fugax. L'année d'après, du coup, j'avais trouvé, je sais plus, mais des Lasius, je crois. Mais du coup, j'avais pas bien anticipé le matériel, j'ai fait la diapose dans mon frigo. Et ma compagne d'alors était pas très réjouie, je dois dire. Ce que je comprends, que je mette des fourmis dans le frigo. Et du coup, je pense qu'elles ont été aussi un peu maltraitées, elles n'avaient pas survécu. Et j'ai réussi finalement mon pari de trouver moi-même mes reines. Et c'était les premières qui ont vraiment marché, on va dire, c'est mes tétramoriums avec la colonie de Paulette. Et puis l'autre colonie, et qui ont été rapidement rejoints par des Lasius noirs, des Lasius emarginatus, une Formica l'année d'après. J'étais très content de trouver une Formica, j'étais aux anges. Et puis évidemment, l'année d'après, j'en voyais partout. C'était un peu frustrant. Je me suis rendu compte que moins je cherchais des reines, plus j'en trouvais. Et puis plus j'allais exprès pour en trouver, plus je me retrouvais mal pris. Donc j'ai arrêté de chercher et je me suis juste commencé à me balader avec des tubes à essai sur moi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, bah, c'est chouette, ces fourmis, mais il y en a d'autres qui sont quand même trop cool. C'est les Camponotus, alors qu'on appelait Turkestanus, que j'appelais Turkestanus, maintenant Fetchenkoï. Et je me suis dit, mais elles sont tellement bien, ces fourmis. En plus, elles se développent lentement. A priori, elles prennent pas trop de place. C'est parfait dans mon appartement. Et ça a été là, le premier achat, c'était après, ou je sais plus, 4 ou 4 ans. 4 ans où j'ai essayé de commencer. Puis c'était peut-être la 2 ou 3e année où ça avait commencé à marcher. Ah, puis j'avais un compatriote qui m'avait offert, et je le remercie encore, une Camponotus vagus, qui malheureusement est décédée lors d'une diapose, qui a été assez frustrant, je dois dire.
Pas
Donc
facile
voilà,
les diapos au début, hein. C'est un peu la peur de beaucoup de gens, parce qu'il y a un peu un côté aussi qu'on peut pas contrôler. On peut leur fournir les meilleures conditions, mais des fois elles sont trop fragiles tout simplement, et même en faisant tout comme il faut, et ben elles vont mourir. Et c'est un côté un peu frustrant et qui fait peur aussi à beaucoup de personnes qui commencent, et même des personnes un peu plus aguerries, j'ai envie de dire.
oui, absolument, clairement. C'est pour ça que voilà, je suis assez content d'avoir plusieurs colonies. Alors j'en ai trop, il faut que je fasse absolument le tri parce que c'est pas jouable comme ça. Mais d'avoir plusieurs colonies où je pouvais me dire, bon, s'il y en a une qui passe l'arme à gauche pendant la diapo, c'est un peu moins grave. Sauf si c'était la Camponotus Fetchenkoï, là j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Et du coup, je me disais que c'était moins grave et l'attachement sentimental est quand même moins fort qu'avec des animaux de compagnie, j'ai des chats en l'occurrence, comme j'ai pu le montrer des fois. Mais c'est vrai que la diapose, gros stress, ça l'est toujours. D'ailleurs, je repousse là actuellement la mise au froid. Mais en même temps, j'ai appris à vraiment apprécier ce moment, dans ce sens où pendant 3 mois, je ne m'occupe quasiment plus de mes fourmis. Je peux prendre du temps un peu pour moi. Les vidéos sont aussi en stand-by. Et puis, il y a quelque chose où je suis vraiment très content de les retrouver après l'hiver. Et je trouve ça reposant, en fait, la diapose de ce côté-là.
Je suis d'accord avec toi. Après, avec quelques petites subtilités, par exemple, cette année, j'aimerais quand même avoir une ou deux espèces qui ne feraient vraiment pas de diapose ni de mise au froid pour avoir, on va dire, une grosse baisse au niveau du fait de s'en occuper, etc. Mais de pouvoir toujours en regarder, en observer une ou deux. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où on a beau, enfin, en tout cas pour moi par exemple, on s'habitue quand même aux espèces qu'on a et le fait de plus pouvoir les observer pendant 3 mois. Après, il y a un petit renouveau, un petit truc en plus qui fait bien plaisir de voir au début du printemps les voir ressortir.
C'est ça, ça pétille un peu de nouveau, je trouve. Il y a ce côté vraiment, je suis comme un enfant avec beaucoup d'appréhension parce que je me demande s'il y a des décès, je me demande s'il y a eu des inondations avec les changements de température, mais en même temps une excitation et une joie sincère de les retrouver. Mais c'est vrai que les exotiques, moi j'ai des Nicobarensis en l'occurrence, que je garde du coup à l'extérieur pendant l'hiver. Là j'ai pris une nouvelle exotique qui va aussi rester dans mon armoire, mais alors une espèce, mais jamais vu une espèce aussi mollassonne, c'est impressionnant. J'en parlerai probablement pendant l'hiver, mais du coup ça garde un peu, on perd pas la main.
On fait tous un petit peu pareil. Bah, ça tombe bien, ce genre de petites questions. Elles sont prévues pour la suite de l'épisode, justement. J'ai
Parfait.
tout prévu là-dessus.
Ah là là, c'était donc ça, it's a trap.
Pour le watch time, n'hésitez pas à voir jusqu'à la fin pour voir quelles sont les nouvelles espèces que.
Ah, le teasing, il est fort, c'est Hans Fourmi, il est fort.
Et sinon, chose un petit peu moins réjouissante, parce que cette première partie, outre le fait de parler de comment on s'est lancé dedans, on va essayer de voir un petit peu l'ensemble du fait de s'immerger, comment on s'immerge dans le monde des fourmis et tout, mais on va parler aussi un petit peu de quelles ont été, on va dire, tes erreurs que tu as pu faire au début, les plus grosses, etc. Et voilà, comment éviter à d'autres personnes qui le fassent tout simplement. Voilà, quelles sont les erreurs que tu as pu faire au début et même maintenant, s'il y en a encore que tu fais. Moi, j'en fais encore maintenant,
des fois. Oh oui.
Sans parler des déménagements, bien sûr.
Ah, c'est pas des erreurs, les déménagements. Ils se passent en général plutôt bien. Je les dramatise un petit peu en vidéo. Mais... Non, les erreurs que j'ai faites au début, ça me... Et bon, j'en fais évidemment toujours beaucoup, mais il y a moins de conséquences actuellement. Je crois que la première grosse erreur que j'ai faite, c'était d'avoir des tubes à essai trop petits. En fait, j'étais chez mes parents un après-midi, et tout à coup, il y a eu un essaimage, et je me suis dit, oh là là, il faut absolument que je récupère ces fourmis, et j'avais pas de tubes à essai. Et du coup, j'avais été, parce que mes parents habitent à une centaine de kilomètres de chez moi. Et du coup, j'avais été vite en urgence dans un magasin à proximité qui avait des petits tubes à essai, mais c'était des 10 cm de long. Et du coup, je me suis dit, ça servira à les récolter au moins, et j'ai préparé les tubes. Et le problème, c'est que du coup, j'ai voulu garder les rennes là-dedans, et les réserves d'eau se sont vidées extrêmement vite. Donc, je me suis retrouvé à faire déménagement sur déménagement. Et je maîtrisais un tout petit peu moins bien l'art du déménagement alors. Et du coup, j'ai eu régulièrement des pertes de couvain. Ce qui était un problème. Et vraisemblablement, quand je les nourrissais aussi, du coup, elles avaient moins d'espace de vie. Je les stressais beaucoup, je pense, en enlevant le coton puis en mettant dedans du liquide sucré. Je pense que ça les stressait beaucoup parce qu'à l'époque, je me disais qu'il ne fallait pas connecter d'air de chasse avant plusieurs ouvrières. Ce qui, actuellement, je ne le fais plus du tout. Dès qu'il y a une ouvrière, c'est air de chasse et puis fini. Et du coup, je pense que je les stressais énormément de ce côté-là. Une autre erreur, je pense, que j'ai faite, qui, disons, est une erreur d'affirmation de soi. On va dire ça comme ça. Ma compagne d'alors était très réticente à ce que j'ai des fourmis à la maison, et encore plus réticente à l'idée d'avoir quoi que ce soit dans le congélateur ou, alors, je pense au verre de farine. Et alors, un élevage nourricier était hors de question, mais là, vraiment hors de question. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais... Ça doit pouvoir se nourrir au liquide sucré uniquement, on verra bien. Et donc, je nourrissais qu'au liquide sucré les rennes Lasius, qui ont quand même réussi à fonder avec quelques ouvrières et qui ont quand même tenu une année. Mais c'était, je pense, clairement une grosse erreur. C'est les deux grosses erreurs qui me viennent. Ah bon, après, il y a les vouloir mettre en nid trop vite, mais ça, je crois que j'ai réussi à me retenir quand même pas mal. J'ai acheté beaucoup de nids. Sans les utiliser, ce qui est très frustrant. J'en ai encore plein. Il y en a un sur mon bureau. Ça fait une année que j'attends de pouvoir l'utiliser. L'année prochaine, cette fois, c'est sûr. Je crois que c'est les grosses erreurs. En fait, je suis en train de découvrir maintenant, du coup, aussi les colonies plus grosses. Les fondations ne sont pas si compliquées, je trouve, du moment qu'on arrive à se retenir de les regarder. Et là, c'est les colonies plus importantes où je me rends compte maintenant, j'ai la peine à gérer l'hygrométrie sur certains types de nids. Je me rends compte que la pierre reconstituée, je ne sais pas utiliser. Donc, il faut que j'apprenne. Et du coup, le nourrissage doit être aussi beaucoup plus conséquent. Et là, il faut que je me drille un petit peu.
Eh ben, c'est assez marrant parce que moi, le nourrissage aussi, c'est une question aussi, pareil comme la diapo, qui revient en tout cas souvent. Moi, j'ai beaucoup de questions là-dessus où on me demande combien il faut les nourrir, qu'est-ce qu'il faut leur donner. Et moi-même, c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à me dire... je vais essayer de nourrir tous les 3 jours, essayer d'installer un rythme, etc. Et en fait, j'avais peur de trop les nourrir ou de pas assez les nourrir. Mais en fait, trop les nourrir, ça n'existe pas. Du coup, c'est même mieux. Enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que, en tout cas, moi, elles se développent mieux quand je les nourris presque trop. Tant pis, ça reste dans l'air de chasse et j'enlève. Et le fait d'avoir une espèce d'abondance, j'ai l'impression qu'elle se développe plus. Alors que quand j'essayais de nourrir parfaitement sans trop les nourrir, ni pas assez, etc. En fait, elle devait en manquer un peu et le développement était beaucoup plus lent. Des fois, c'est des questions comme ça que je me posais, je voulais trop bien faire et en fait, en voulant trop bien faire, on faisait mal. Et oui. Moi, c'était une des grosses erreurs que j'ai fait. En fait, je les ai pendant longtemps sous-nourris, je pense, en voulant faire optimal. Et après, quand j'ai arrêté de me poser des questions et que je mettais de la nourriture un peu comme ça, presque tous les jours, avec des petits temps de pause quand même pour pas que ça pourrisse, mais presque, voilà, tous les jours, un petit bout dans l'air de chasse, ça s'est beaucoup mieux développé, je me suis moins pris la tête et voilà, tout simplement, en fait.
Ah, c'est vrai que moi je reste très strict avec l'apport en protéines, c'est 2 fois par semaine maximum pour l'instant, parce que je veux pas qu'elles se développent trop vite. Je veux pouvoir les garder, je veux pouvoir garder sous contrôle, donc liquide sucré, ça y a tout ce qu'elles veulent, mais les protéines, je reste assez frileux, notamment les Nicobarensis, que j'évite de trop nourrir. Et alors là, cette année, probablement que je les ai pas assez nourris parce que le développement était quand même un peu timide, ce qui n'est pas normal. Mais effectivement, la question du nourrissage est difficile. Et surtout, je trouve, si tu n'as pas d'élevage nourricier, enfin, c'est vraiment une autre démarche de congeler, sortir du congélateur. Les déchets dans l'aire de chasse ne posent pas de problème. Moi, j'ai des colonies qui ont tendance à mettre les déchets dans le nid. Et là, c'est beaucoup plus embêtant. Et je me bats avec Minicobarensis. Ça fait 5 mois que je me bats pour faire en sorte qu'elles sortent leur dépotoir. Et tout à coup, elles ont des lubies, elles me sortent toute une partie, et je suis yes, cette fois c'est bon. Elles ont commencé à sortir le dépotoir, ça joue, et tout à coup elles s'arrêtent, je comprends pas pourquoi, puis il reste du stock. Et du coup, je fais attention à ce que je nourris, du coup, je leur donne maintenant des morceaux qu'elles ne peuvent plus traîner dans le nid.
Est-ce que ça serait pas comme des adolescents à la période rebelle qui veulent faire comme ils veulent dans leur chambre et tout stocker dans leur chambre et...
C'est ça, faut que je leur mette un cadre du coup.
T'es pas assez strict.
C'est ça, exactement.
Et sinon, pour continuer un petit peu, qu'est-ce que tu aimes dans tout ça en fait? Pourquoi, à plusieurs points de vue, déjà, qu'est-ce qui te fascine autant dans tout ça, mais aussi qu'est-ce qui fait que ça fait 4-5 ans que tu restes dans cette passion et qui te donne encore envie de continuer tout? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à te dire, mais quelles sont les principales choses que t'aimes dans tout ça?
Je crois que, peut-être pour commencer par le début, ce qui m'a aussi lancé sur la piste de vouloir élever des fourmis, toi tu parlais de l'insecte social, hein, et je crois qu'il y avait quelque chose de ça que je trouvais fascinant, que chaque membre de la... C'est ce que je pensais à l'époque, je me suis rendu compte que c'était pas le cas, mais que chaque membre de la colonie participe activement à la vie de la colonie. Et que tout tourne autour de la survie de la colonie avec une répartition des tâches. J'avais été mais vraiment saisi à la naissance de la première Lasius emarginatus que j'avais réussi à capter. Et du coup, mais dans les minutes, disons les heures en tout cas, qu'on suivait la naissance, elle s'occupait du couvain. Et je trouvais ça fascinant, je veux dire, un bébé humain à côté, je veux dire, ça naît, c'est pas hyper débrouille, on va dire. Et j'avais été absolument fasciné par ça. Je me suis rendu compte, après, avec les lectures aussi, qu'il y a toute une partie des fourmis de la colonie qui touchent pas le puck et puis qui font pas grand-chose. Mais du coup, je trouvais ça extrêmement fascinant et je crois que c'est ça qui continue de me fasciner. Ce côté de... On vit pour la communauté et tout ce qu'on fait est mis au service de la communauté. Et je trouve ça absolument fascinant, avec des rôles, des âges de la vie. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu humain. Humain, on sait moins bien s'occuper de notre communauté, on va dire. Et du coup, il y avait quelque chose de ça, de voir la reine là au milieu et de voir maintenant grandir en fait ces colonies, prendre plus de place, avoir chacune des... Je crois que c'est des tempéraments, j'ai envie d'appeler ça, si je... On va dire, je rends un peu humain nos fourmis. Mais il y a des comportements un peu humains, les tétramoriums qui, dès qu'il manque un tout petit peu quelque chose à manger, c'est les évasions dans tous les sens, c'est intenable. Enfin, elles ont vraiment des tempéraments et ça, je trouve ça assez chouette, je dois dire.
Même des préférences alimentaires, par exemple, au sein, je sais pas, de Lasius SP noir, une qui adore telle chose et l'autre qui va aimer totalement autre chose, c'est des choses un petit peu humaines quand même, des goûts alimentaires, c'est assez marrant. Et... Moi, pour te compléter un peu, c'est vrai que ça, c'est justement quelque chose... j'aime beaucoup, moi, observer les choses et comprendre les choses. Mais comme j'avais pu le dire quand j'étais jeune, par exemple, à travers les grillons, je trouve, même s'il y a beaucoup de choses à observer, on reste un petit peu sur notre faim parce que, on va dire que quand tu l'observes, il ne va pas faire grand-chose, c'est assez lent, etc. Alors que les fourmis, en fait, il y a tellement d'étapes différentes. Au départ, une fondation, du coup, quand la reine va prendre ses premiers œufs qui vont devenir des larves, puis des nymphes, donc ce premier cycle avec la naissance des premières ouvrières qui vont ensuite être assez timides par exemple au début et s'occuper un petit peu du couvain, puis au fur et à mesure elles vont prendre confiance et sortir dans l'air de chasse par exemple. Plus on a de fourmis, plus il va y avoir des rôles attribués. En fait, il y a une espèce de... on s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours des choses à observer différentes. Par exemple, quand, pendant le confinement l'année dernière où j'avais ma grosse colonie de Camponotus nicobarensis, qui était peut-être 1000, il y avait toujours des grands trajets à travers les tubes pour aller dans l'air de chasse, découper, ramener au nid, d'autres qui s'occupaient du couvain, qui déplaçaient des choses. C'est super riche, ça grouille toujours, c'est toujours en mouvement, et à n'importe quel moment de la journée, tu peux te poser 5 minutes, observer, juste observer.
C'est clair, quelque chose et il y a ce côté, je trouve, quand tu regardes, je ne sais pas si ça te fait ça aussi, moi je me raconte des histoires quand je vois mes fourmis. Je me dis, tiens, elle est en train de faire ça pour cette raison, ou elle va là-bas parce qu'elle cherche quelque chose. J'avais eu mes Camponotus fetchenkoi qui déplaçaient le couvain tout le temps, et je comprenais pas, et je trouvais ça marrant, et je me raconte des histoires, pourquoi elles font ça, peut-être qu'il y a une meilleure vue à cet endroit-là, pas du tout, hein, c'est absolument pas ça. Et il y a ce côté, je crois, où pour ma part, tu me diras si pour toi aussi, je retrouve quelque chose de la rêverie de l'enfant que j'ai été. Et je crois que ça, c'est très plaisant.
Et exactement, par exemple, pour te compléter un petit peu, en fait, je trouve que quand on est dans la nature, c'est là qu'on se laisse aller à nos pensées et à toutes ces choses. Et par exemple, moi, maintenant, je suis à Lyon, et comme tu as pu le dire, il y a beaucoup moins de nature, il y a beaucoup moins toutes ces choses, donc on peut moins se poser dans une forêt et rêver et penser à toutes sortes de choses, ce que font les oiseaux, etc. Et le fait, du coup, enfin, pour moi, c'est comme si je ramenais un petit bout de nature dans mon chez-moi, par exemple. Le fait d'avoir une petite fourmilière sur le côté et qui bouge de partout, c'est comme si je ramenais un petit bout de jardin avec un petit écosystème. Et du coup, ça ramène le côté rêverie en nature, mais directement chez nous. C'est là-dessus que ouais, je te rejoindrai sur le côté rêverie.
Et du coup, moi, je rebondis aussi sur ce que tu dis, je profite de ça, où j'ai trouvé que pour moi, m'occuper de mes fourmis, c'est un côté très, très centrant. Ça me centre dans le sens où, dans les périodes où je suis stressé parce que j'ai beaucoup de travail, ou j'ai beaucoup de choses dans la tête que je dois faire, le moment où je m'occupe de mes fourmis, c'est un moment où je pense à l'ici et maintenant, et je me concentre sur ce qui se passe ici et maintenant. Et je ne suis pas devant mon écran, je joue pas mal aux jeux vidéo aussi, je ne suis pas sur YouTube, où finalement c'est très passif, il y a quelque chose où je me mets dans un état quasi comateux, alors que quand je m'occupe des fourmis, il y a quelque chose de presque méditatif, et qui, moi, me met à l'écart de mon stress pendant un petit moment, et qui me permet on va dire, de me réguler un petit peu, qui est assez agréable.
Et d'ailleurs, moi, c'est un autre point qui me plaît énormément, outre le côté observation et qui est toujours différent, c'est que des fois, j'ai tendance à vite me lasser des choses parce que j'ai l'impression que quand j'ai fait, par exemple, je sais pas si je me passionne sur un sujet et pendant un mois, je lis beaucoup de choses, j'ai l'impression d'avoir vu une grosse partie et une fois que j'ai compris un peu dans l'ensemble comment ça marchait, je trouve ça un petit peu ennuyant d'aller le plus profondément et j'ai envie de comprendre d'autres choses. Il y a tellement de choses, des sujets de partout à comprendre que du coup j'essaie de comprendre les choses dans son ensemble, d'aller un peu plus loin et de passer à autre chose. Et j'ai besoin toujours de cette nouveauté. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans les fourmis, c'est cette richesse sur tellement nombre de points. Par exemple, je disais tout à l'heure, avec une seule colonie, du coup chaque étape est différente. Du coup, tout le temps, tu as envie de les regarder parce qu'il se passe toujours des choses différentes. Mais aussi, du coup, le fait que chaque espèce est différente. Par exemple, il y a des fourmis, c'est tout bête, mais des fourmis grosses, petites, oranges, presque vertes. Il y en a qui vont faire un champ. Voilà, aussi, c'est ce côté, par exemple, il y en a qui vont faire un champignon pour se nourrir. Il y a des fourmis kamikazes. Il y a des fourmis, entre guillemets, médecins qui vont injecter des sortes d'antibiotiques. Il y a, je sais pas, des fourmis qui construisent des radeaux. En fait, il y a tellement une richesse sur un nombre de. Enfin, j'ai l'impression que c'est sans fin, et du coup, à chaque fois, on peut toujours avoir de la nouveauté de partout sur. Et ce côté, en fait, très très riche, très très énorme, c'est passionnant. Même en psychologie, on s'intéresse aux fourmis à propos de certaines choses, en économie à propos d'autres choses, même en politique sur le fonctionnement au niveau hiérarchique, etc. Je trouve ça fou, ce côté pluridisciplinaire, multiple. C'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup passionné et qui fait que j'ai toujours cette passion encore après tant d'années.
Oui, puis ça rend assez humble, je trouve. On se dit que dans l'humanité, on n'a pas inventé grand-chose. On l'a perfectionné à merveille, mais on n'a pas toujours inventé grand-chose.
Exactement, ça conclut bien un peu tout ça. Ensuite, on va commencer à rejoindre des choses que tu as présentées tout à l'heure. Quelle est ton espèce préférée que tu possèdes actuellement? Et quelle espèce t'aimerais vraiment avoir un jour, pas forcément maintenant, peut-être même dans 10 ans, parce que je sais pas, elle est rare, elle coûte cher, un peu ton espèce coup de cœur que t'aimerais avoir un jour.
Alors, l'espèce que je préfère dans mon élevage actuellement, c'est clairement la Camponotus fetchenkoï. Mais je veux dire, c'est lent, c'est mou, il se passe pas grand-chose.
C'est parfait.
Mais ouais, non, mais c'est, il faut pas l'avoir en espèce principale. Hein. Ça c'est clair. Mais elle est, je trouve esthétiquement, elle est magnifique. Et juste pour les regarder en fait, je trouve ça magnifique. Et depuis que je les ai, ça reste mon espèce préférée. Dans les espèces que je rêve d'avoir une fois, ça dépend les critères qu'on prend en fait. Du point de vue de nouveau esthétique, pour moi, ça doit rester dans la mesure du possible beau. Alors, je trouve les fourmis très agréables à regarder, mais je trouve qu'il y en a qui ont plus ou moins de bonnes têtes. Et voilà, les ponérines, typiquement, c'est pas ma tasse de thé. Mais bon, il y a toujours, je crois que j'en avais parlé là, quand on s'était vu une fois, la Dorimirmex ensifer, qui reste pour moi la fourmi que j'aimerais au moins pouvoir voir. Et je crois que je me réjouirais pas mal d'essayer d'avoir une fois comment, je sais plus jamais comment on prononce, une polyrachis.
Ouais, c'est ça.
Et je sais plus maintenant quelle espèce exactement que j'avais trouvé assez magnifique. Après, il y a beaucoup d'espèces qui me donnent envie, que je trouve passionnantes, mais jamais je les aurais chez moi. Je pense les Pogonomyrmex barbatus, que je trouve très belles et dont l'aiguillon m'impressionne beaucoup, mais jamais j'aurais ça à la maison parce que on n'est pas à l'abri d'une évasion, on n'est pas à l'abri que j'ai un chat qui tout à coup fasse tomber quelque chose et puis que ça pique, enfin. Jamais j'aurai une espèce comme ça. Enfin, je dis ça maintenant, on en reparle dans 10 ans. Mais du coup, je suis pas très. Comment on va dire ça? Là, il y en a une que je voulais depuis longtemps et je l'ai obtenue il y a un mois.
C'est quoi cette espèce?
C'est la Méranoplus bicolore.
Ok, je vois.
Ouais. Mais alors, je savais qu'elle était molle. Hein. Mais molle à ce point, je pensais quand même pas. Mais c'est terrible! Je sais même pas comment je vais pouvoir raconter quoi que ce soit sur cette fourmi. Mais elle a un style que je trouve génial, ce truc de se mettre en boule quand elle se fait attaquer. Je trouve ça absolument mythique. Je veux dire, c'est la fourmi victime. Et moi, ça me fait beaucoup triper. Alors on verra si j'essayerai. C'est un peu l'idée. Ce serait d'essayer de la faire cohabiter avec une autre espèce. Mais
C'est ce qui me semblait, oui, elle peut cohabiter facilement avec beaucoup d'autres espèces.
c'est ça, mais il faut que j'aménage. J'ai une aire de chasse depuis une année qu'il faut que j'aménage, qui est un peu plus grande que mes boîtes AliExpress. Mais voilà, après, je suis pas très. Comme j'ai pas envie de. J'ai plus la place d'avoir des nouvelles espèces. Alors je prends voilà, des espèces qui font des petites colonies.
Petite pause, il y a un an quand j'étais venu chez toi, tu m'avais dit j'ai plus la place et entre-temps... T'avais la place.
Ouais, j'ai fait un peu de place, j'avoue. Non,
T'as débordé sur d'autres meubles.
c'est ça, oui. Alors, il faut dire, il faudrait que je reparle de mon setup une fois. J'ai réussi à coloniser un autre bout d'étagère au-delà de l'armoire que j'avais jusque-là. Je suis pas sûr que je vais pouvoir avoir beaucoup plus que ça. Mais voilà, mais il faut quand même que je fasse le trip. Alors, je prends des espèces qui font des toutes petites colonies. Comme ça c'est beau à voir. En partie assez chiant, mais voilà. Et du coup, j'essaie de pas trop regarder non plus les espèces qu'il y a dans le monde ou à acheter parce que j'ai trop peur, je crois, d'être tenté.
Je te comprends, il y a tellement de choses. Bah justement, moi je sais que pas forcément maintenant, même si certaines je commence à réfléchir. Par exemple, là j'ai pu avoir une étagère qui n'est pas encore là, mais enfin avoir une étagère entière pour mettre des fourmis. Pour l'instant, c'était un petit bout de meuble, un endroit, parce que je viens de déménager, du coup, non meublé. Faut acheter tous les meubles, du coup, bah, ça se fait petit à petit.
Ouais.
Et du coup, bah là, j'ai sûrement des arpégnatos qui vont arriver. Je les trouve
Ah.
juste magnifiques. Et j'aimerais, je suis en train de pas mal me renseigner sur des coupeuses de feuilles. J'aimerais, je sais que ça prend beaucoup de place et justement, j'aimerais pouvoir leur accorder cette place. Même si je pense que peut-être dans 3 ans, quand elles seront trop énormes, je m'en débarrasserai peut-être pour une personne qui, elle, a la place. Mais voilà, c'est des espèces comme ça, les coupeuses de feuilles, qui sont tellement passionnantes à observer que j'ai au moins une. Même pendant un an, envie d'avoir chez moi et de maintenir, juste pour pouvoir les observer et les filmer et les découvrir.
C'est, voilà, j'ai été une fois chez quelqu'un qui avait préparé un setup pour découpeuse de feuilles. Alors, il les a jamais eues, mais il a gardé le setup. C'est de la folie, hein, la taille qu'il faut avoir à disposition. Je crois qu'il faut être, vachement prêt.
Ouais, non, c'est pour ça que moi je cherche une petite fondation pour, repousser un peu le moment où j'aurais besoin d'une pièce entière. Mais par contre, je dis pas qu'un jour, quand j'en serai grand, si j'ai de la chance d'avoir dans quelques années, je sais pas, un espace assez grand, je trouve que l'idée d'avoir par exemple un setup de coupeuse de feuilles ou même de Messor Barbarus qui fait par exemple où tu mets des câbles tout autour du mur par exemple. Ça doit être hyper intéressant à observer au quotidien, de tourner ton mur et de voir bah, dans des petits tuyaux des fourmis se balader. Je pense qu'un jour j'aimerais bien pouvoir avoir la chance de faire ça en fait, d'avoir juste une énorme colonie, mais avec un setup que voilà, qui fera par exemple le tour de ma pièce en étant collé au mur, ça prend pas forcément beaucoup de place, mais de pouvoir voir tous ces mouvements à grande échelle. Là pour l'instant ça reste quand même à petite échelle, et de voir ça à plus grande échelle, je pense que ça peut être très, même juste apaisant de tourner la tête et
Ouais,
d'aller voir se balader.
je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça donne assez envie comme ça. Puis d'avoir peut-être des cordelettes ou des choses comme ça où elles sont à l'air libre, on va dire ça
Ouais.
comme ça. Ça peut être assez chouette.
Ensuite, une autre petite question. Quels sont là où... Bah, c'est d'ailleurs une des dernières questions sur ce sujet-là. Quelles sont là ou les choses qui t'impressionnent le plus dans le monde, l'univers des fourmis, des choses qui t'ont particulièrement marqué ou impressionné?
Oula, tu me prends un peu à froid là.
C'est la
Mais.
dernière question, hein?
Ah ouais. Et tu me fais réfléchir durement. J'ai eu un match de foot ce matin. Je suis un peu patraque. Mais je pense qu'il y avait. Mais je crois que tout est fascinant en fait chez les fourmis. Là, quand je m'étais intéressé à l'odeur coloniale, typiquement. C'est fou comme ça marche, l'odeur coloniale qui a une espèce de... que certains proposent des modèles où en fait il y a une espèce de démocratie, une espèce de pseudo-vote de c'est quoi l'odeur coloniale qu'on accepte et puis à partir de quand on l'accepte plus, on fait une moyenne. Je trouvais ça fou, mais toutes les espèces que tu citais, toutes les caractéristiques, les kamikazes, il y a des fourmis vampires, sauf erreur, qui sucent les
Oui.
molymphes des larves. Il y a les fourmis peau de miel, c'est absolument fou, je veux dire, qu'on suspend au plafond en étant gorgé de liquide sucré, je trouve ça absolument saisissant. Que les fourmis soient intégrées dans des rituels humains aussi, je pense, j'avais vu un reportage en anthropologie de cette personne qui...
Paraponera
Voilà, les fourmis, les balles de fusil,
clavata.
où le but c'est de se faire piquer, puis de... C'était quoi le but? De pas tomber dans les vapes,
C'est
parce
exactement
que...
ça, ouais. Je crois qu'il y a une cinquantaine qui sont, on va dire, mises sur une espèce de gros gant, et la personne doit tenir par exemple 1 heure avec la main dedans, et du coup, la douleur de une est déjà très impressionnante. On peut voir des vidéos sur YouTube, bah, c'est presque comme une balle de fusil en fait, et ça dure jusqu'à 24 heures. Et là, du coup, le but c'est de résister à une cinquantaine en même temps, quoi.
Et c'est incroyable qu'il y ait des espèces qui aient pu faire ça, qu'il y ait des fourmis légionnaires où les tribus humaines doivent mettre tous leurs meubles dans des seaux d'eau parce qu'elles ravagent tout sur leur passage quand elles se déplacent. Et même à petite échelle, si on regarde nos petites lasius de chez nous, c'est dingue, t'as une fourmi qui découvre un truc à manger qui a l'air chouette, et puis 1 heure après, tu te retrouves avec des milliers d'individus qui font une autoroute jusqu'au nid, c'est absolument épatant. Je trouve. Et pour répondre à ta question, ce qui m'a le plus impressionné, mais je crois en fait tout. Tout m'impressionne avec les fourmis et tout me donne envie de comprendre ce qui se passe. Et en même temps, j'essaye de pas trop lire parce que j'ai tendance j'ai travaillé en recherche, hein, à lire beaucoup et à tout très intellectualiser. Et du coup, j'essaye aussi de vivre un peu les choses plutôt que les intellectualiser, même si c'est pas toujours très simple. Et je réponds pas du tout à ta question finalement, mais je crois que je vais être frustré.
Non, mais justement, je trouve ça super bien comme réponse parce que c'est vrai que tu disais même des lasius ou certains, on va dire, même moi, on a tendance à force à mettre un petit peu de côté et même le fait qu'elles élèvent entre guillemets des pucerons pour récolter leur liquide comme nous on ferait avec des vaches en fait, c'est bah, c'est de
Ouais.
l'agriculture quoi et C'est fou que même des espèces, parce qu'on a tendance aussi à dire que l'exotisme dans les espèces, ça sont, il y a des comportements encore plus impressionnants, mais même dans nos espèces locales françaises, c'est fou. Et là-dessus, bah, je te rejoins totalement. Je pense que c'est difficile à dire un truc plus impressionnant que l'autre, tellement il y a des choses impressionnantes et saisissantes.
Ouais, par exemple, même les formicas chez nous. Si tu déranges un nid de formica, elle te balance du couvain dans tous les sens. Enfin, sur le coup, je me dis, mais c'est complètement con comme idée. Mais non, c'est assez malin dans le fond. Enfin, en tout cas, l'évolution a estimé que ça marchait. Et ouais, je trouve aussi, ça vaut la peine de s'intéresser même à ces petits comportements-là.
Et tu parles de formica, mais avec les esclavagistes qui ont tout simplement des esclaves. On pourrait dire que c'est un truc typiquement humain. Et ben non, elles ont justement, il y en a qui font des raids pour piller d'autres colonies, surtout le couvain, et qui les élèvent comme si c'était les leurs, mais qui leur attribuent toutes les tâches, toutes les sales besognes, un petit peu, toutes les tâches à faire, pendant que elles font presque rien, entre guillemets, quoi. Et du coup, bah, pour changer un petit peu de sujet, cette deuxième partie est un petit peu plus légère, parce que là, je pense qu'on a fait un bon tour du monde des fourmis, de qu'est-ce qui est passionnant, comment on se lance dedans, comment on aborde les choses, parce que y a tellement de choses à comprendre que se lancer dedans, c'est assez compliqué. Mais il existe aussi des vidéos YouTube pour apprendre à se lancer dedans, hein, comme ma chaîne Hans Fourmi, comme la tienne Fourmi des Plaines, et comme tant d'autres. Mais justement, comment t'es venue cette idée de créer une chaîne YouTube? T'en as parlé un petit peu tout à l'heure, et du coup, qu'est-ce qui te plaisait en fait une fois que t'as franchi ce cap dans le fait de faire des vidéos que tu fais maintenant régulièrement depuis 2 ans et demi?
Ouais, alors il y avait justement cette idée qu'on avait un groupe WhatsApp avec ses amis qui m'ont lâchement laissé commencer tout seul l'élevage de fourmis. Et il y en a un qui disait régulièrement, mais fais des vidéos, puis mets-nous les vidéos, comme ça. Mais lui, je crois qu'il pensait à film et mets sur YouTube et puis donne-nous le lien, comme ça on peut regarder ça. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, oui, bah oui, mais c'est une bonne idée. Je crois que ça m'a pris une année, quelque chose comme ça. J'ai regardé d'autres vidéos, d'autres gens qui m'ont donné envie. Et je me suis dit, mais oui, je vais faire ça, je vais mettre des vidéos sur YouTube. Le problème, c'est que quand je me lance dans un truc comme ça, j'arrive pas à juste me dire, je filme, je mets. Je me dis, bon, alors il faut maintenant, je vais chercher un programme de montage, je vais apprendre à faire du montage, et j'aime apprendre, et j'aimais apprendre ça. Et je me suis dit, mais si je présente quelque chose de mes fourmis, je veux que mes amis aient envie de suivre, aient envie d'écouter ce que j'ai à leur dire, et j'ai envie de raconter quelque chose de l'histoire de mes fourmis. Et je crois que c'est un peu comme ça que ça a commencé. La première vidéo de la chaîne était un déménagement en force. Je pense que ça disait bien ce qui allait se passer sur ta chaîne. Et du coup, je crois que c'est comme ça que je me suis lancé. Un ami a dit, tu devrais faire. Et je regardais à l'époque, donc j'appréciais les vidéos. Je disais avant, Snake Reptile, Géante, Instant Reptile. Mais il y avait Feufeu qui avait commencé. Il y avait La Vie de mes fourmis. Il y avait Myrme, Secret de Terre. Juante, je sais plus s'il avait déjà commencé sur les fourmis ou
Très bonne
pas.
question. Je l'ai découvert un petit peu plus tard, moi, Juante. Je sais pas si je l'ai découvert peut-être plus tard parce que il a commencé plus tard ou si parce que je l'avais tout simplement pas découvert avant. C'est une bonne
Je crois
question.
qu'il a une chaîne depuis très longtemps, mais les fourmis, je crois que c'est un peu plus récent. Et puis il y avait bien sûr ta chaîne aussi, qui à l'époque, quand je te suivais, tu avais fait une vidéo pour les 1000 abonnés. Tu te montrais Facecam pour les 1000
Ma
abonnés, je
première
crois
vidéo,
que
ouais, Facecam, ouais.
voilà. Et je crois que je te suivais depuis pas trop longtemps quand j'avais ça, avec une explosion assez extraordinaire d'ailleurs. Et du coup, je crois que tout ça, de voir cette diversité, que chacun peut y aller à sa manière, je me suis dit, mais je vais faire ça. Et puis après, j'ai commencé à avoir des commentaires, j'ai commencé à avoir des gens qui se sont abonnés. Et puis je me suis dit, mais c'est assez chouette en fait, ça a l'air de plaire. Moi j'ai du plaisir à le faire, à raconter ça. On va continuer. C'était un peu ça l'idée, je crois.
C'est super intéressant ce que tu dis parce que bah, moi ce que j'aime beaucoup encore actuellement c'est que on a tous un peu une façon de présenter le monde des fourmis différente. Moi j'estime en tout cas c'est ce que j'essaye c'est de faire découvrir plusieurs espèces différentes et un petit peu le côté waouh. Moi c'est enfin, on va dire que je trouve ça intéressant de montrer des nouvelles espèces, de montrer des comportements fous, par exemple la fourmi zombie, la fourmi Dracula que j'ai pu faire, mais aussi du coup les Componentus nicobarensis, une fourmi qui se développe vite et qui est rouge, ou des choses comme ça, voilà, tout ce que je peux apprendre au fur et à mesure de le montrer, ce côté un peu divertissement, ce côté waouh, ce côté Par exemple, Miam, je le voyais un peu plus sur le côté nature, feu, un petit peu plus divertissant, drôle. Voilà, beaucoup d'approches. Et toi, je t'ai découvert très tôt, je pense. Je crois que tu avais 200 abonnés. Je sais que très rapidement, j'avais fait une vidéo pour présenter ta chaîne. Parce que j'aimais bien, en fait, il n'y avait pas encore de vidéo un peu plus. Ton approche, elle a un peu plus créé une histoire autour des fourmis. Et je trouve que c'est. Il manquait ça, on va dire. Il manquait ça. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper. Hyper intéressant de pouvoir compléter. Et du coup, ça vient à la question un peu suivante. Quel est l'objectif que tu recherches à travers tes vidéos? Du coup, ce sera un peu plus créer une histoire que les gens ont envie d'entendre si j'ai bien suivi jusqu'à maintenant.
Oui, c'est vraiment ça mon idée. Parce que je trouve que les gens sont très bons dans ce qu'ils font. Si je pense à Nico Emery avec ses suivis hebdomadaires qui est très bien, Médoc qui est plus dans les côtés aussi bricolage. Et moi, je sais pas faire ça. Je sais pas faire du live comme ça. Je sais pas. Je suis manuel, je suis nul. Mais je sais un petit peu raconter des choses. J'ai une petite notion de la vie des gens. Et mon plaisir, il est d'essayer de pas d'expliquer mes fourmis, même si je le fais des fois avec certaines vidéos qui marchent un peu moins bien, on va pas se le cacher. Mais j'aime raconter et j'aime avoir l'impression d'être un peu comme dans un conte où j'aimerais dire quelque chose, j'aimerais montrer que c'est chouette en amenant un peu de rêverie. Mais en même temps, je crois que on m'a dit une fois, on n'apprend rien en regardant tes vidéos, et je crois que je suis pas d'accord avec ça. À l'époque, j'avais dit oui, c'est vrai, mais je crois que je suis pas d'accord. Je crois qu'on apprend des choses aussi, et simplement que c'est amené autrement.
Sinon, ensuite, pour continuer, comment tu crées un petit peu tes vidéos, c'est-à-dire entre le moment où tu te dis c'est bon, j'ai l'idée, comment tu trouves cette idée, comment tu te dis comment je vais la réaliser, comment tu la réalises et comment tu arrives à une vidéo finale qui raconte une très belle histoire au final?
Alors j'ai l'avantage cette année que j'ai décidé de passer à une vidéo toutes les 2 semaines en me disant que je me forçais pas, que je ferais une pause pendant l'été, une pause pendant l'hiver, ce qui fait que j'ai peu de vidéos par année et ce qui fait que bah, je suis à un stade où il se passe beaucoup de choses en fait avec mes colonies. Il y a des déménagements, il y a encore des pertes et du coup en fait quand il se passe un truc, je me dis bah tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. Je filme régulièrement. En général, au début de l'année, je filme beaucoup mes colonies chaque semaine. Et puis ensuite, au fur et à mesure que l'année avance, que les colonies se stabilisent, que les premières générations de l'année sont passées, je filme beaucoup moins. Et puis c'est tout à coup quand il se passe un truc, un déménagement, une évasion, des décès. À ce moment-là, je me dis, bon, bah, je vais raconter cette histoire-là. Et en général, j'ai des images en vrac, hein, je sais absolument pas ce que je vais raconter avant le début de la vidéo. Et puis maintenant, ce que je fais souvent, c'est je me fais, c'est pas un script, mais c'est des lignes directrices, des étapes que je veux aborder dans la vidéo. C'est-à-dire, je me dis, ok, j'ai envie de parler de ça et je veux arriver là. C'est quoi les étapes que je vais prendre maintenant pour arriver là? Et ça me donne dans les grandes lignes ce que je veux dire. J'ai pas du tout de texte en tant que tel, ce qui est d'ailleurs probablement une erreur parce que ça me prend une plombe pour faire la voix off, mais une plombe. À chaque bégaiement, à chaque fois, je me dis, mais non, mais cette phrase, elle veut rien dire, non, mais là, je me trompe. Donc, c'est des petits bouts. Si vous écoutez bien les vidéos, vous vous rendez compte que des fois, il y a des accordages un peu bizarres entre les différentes phrases. Et du coup, je commence avec ça. Puis après, j'ouvre mon programme de montage et puis je me crée des fichiers, des fichiers où je mets les images que je veux pour chaque étape. Et ensuite, je déploie ça dans le programme de montage, d'abord toutes les séquences d'images, ensuite je mets toute la voix off, et puis où je cale les images sur la voix off, et puis ensuite je fais tout ce qui est musique, les sons, les transitions. Et ça me prend, si on compte le moment où je construis la vidéo, entre guillemets, dans mon petit document Word, et le moment où je l'extrais du programme de montage, ça me prend 15-20 heures par vidéo, quelque chose comme ça. Et là, on compte pas les heures de filmer avant encore.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi sur le temps. Par exemple, les gens, je pense, ne se rendent pas forcément compte du temps. Même si ça reste de la passion, ça reste long à créer. Enfin, du coup, à
Ah ouais!
créer, du coup, le sujet et tout, le montage. Moi aussi, hein, j'ai essayé de faire un peu plus de montage maintenant. Au début, c'était purement je filme, je pars dessus Et je lance, et maintenant, du coup, le fait de réfléchir à l'idée, le fait de l'écrire quand même sans faire de script, de faire la ligne directrice et tout, de filmer tout ça, d'exporter, de faire le montage, on arrive facilement à 15-20 heures, un petit peu moins pour ma part, parce que du coup, j'essaie souvent de rester sur une vidéo par semaine, mais du coup, ouais, on arrive à 10 heures pour ma part, je dirais, de montage, 15-20 heures pour toi.
Ce qui est énorme déjà, 10 heures par vidéo, je crois que c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte quand on a le produit fini, parce que c'est censé ne pas se ressentir plus que ça, ou alors il faut qu'on devienne très fort pour qu'on se rende vraiment compte qu'on passe des heures dessus avec le montage, mais ça je sais pas si on arrivera un jour à ce niveau, mais...
Mais surtout, en plus d'un métier à côté, c'est surtout ça qui...
Bah, c'est ça, un métier, moi je fais des formations continues, t'as une vie sociale, une vie sentimentale, tu fais du sport, tout ça c'est du temps libre quoi. Pour ça que moi j'ai changé aussi de passer une fois toutes les deux semaines, parce qu'une fois par semaine j'avais essayé de tenir ce rythme l'année passée, en fin d'année passée, mais des fois le matin avant de partir au boulot je me disais faut vite que je fasse une demi-heure de montage parce que sinon je serais pas dans les temps. Puis je me suis dit, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, le matin tu dors, après tu vas au travail, et puis le soir tu profites de te reposer, mais ça veut dire qu'on fait ça le week-end. Et, enfin, ouais, on a choisi, toi et moi, on a choisi.
Ah oui, totalement. Bah d'ailleurs, là c'est dimanche après-midi. Hein.
C'est ça.
Heureusement que c'est quand même une passion et qu'on aime.
C'est ça. Mais si tu me permets... Et la question de la passion, le mot passion, moi, me pose beaucoup de problèmes parce que je l'entends beaucoup dans le monde de la myrmécologie et j'ai l'impression que je sais plus ce que les gens veulent dire en disant passion et que le mot passion, en fait, j'ai été chercher dans le dictionnaire, ça c'est quoi la définition de la passion? Et puis c'est ce qui va, maintenant je sais plus, mais c'est ce qui va au-delà de la raison, au-delà du bon sens et tout.
Et... Dans le mot passion, il me semble, au niveau psycho, il y a ce côté d'y penser, même quand tu le fais pas, par exemple, le fait d'y penser à plusieurs instants de la journée, que ça te reste dans la tête, au détriment un peu de la raison, le fait que ça te reste en tête, bah, c'était un des points, si je me trompe pas, de la passion. Ouais.
Mais c'est quelque chose qui te submerge, parce que moi, le travail, c'est pas une bonne nouvelle, mais le travail, j'y pense des fois le week-end, j'y pense le soir quand je vais me coucher, c'est pas une passion, mon travail. Mais voilà, mais du coup, il y a quelque chose qui submerge, qui est plus fort que soi, dans la question de la passion, où on fait des choses un peu malgré le bon sens. Et je trouve cette définition un peu des fois compliquée, mais j'ai l'impression qu'elle excuse beaucoup de choses, d'attitudes, de comportements et d'idées en myrmécologie, et moi, j'essaie de... dégager de ça, pour moi c'est un loisir et pas une passion, même si dans les faits, si on prend strictement le truc pour passer 20 heures par vidéo et puis avoir 12 colonies et puis de passer tous les jours du temps dessus, il y a quelque chose quand même qui va au-delà du bon sens, hein. mais voilà, je trouve des fois le mot passion est utilisé à tort et à travers pour, peut-être pour certains ça l'est absolument, mais voilà, moi j'essaie de me dégager de ça, je trouve que c'est une bonne excuse des fois pour se taper dessus, et je trouve ça un peu dommage.
C'est vrai que moi je l'utilise beaucoup quand je vois par exemple aussi pour moi-même, hein, le fait de faire des choses le dimanche après-midi, je fais presque du montage un petit peu tous les soirs, même des fois une demi-heure ou des choses comme ça, tout en m'occupant un peu tous les jours de mes colonies, etc., en ayant plusieurs. Mais c'est vrai par contre que c'est là aussi où je... C'est un peu le côté plus passionnel presque, qui n'est pas forcément toujours bon, le fait de se taper sur les doigts pour peu de choses finalement. Mais pour moi justement, c'est ça qui rejoint le côté malheureusement un peu passion aussi, faire des choses avec tellement de passion que quand on fait pas ce que quand les autres ne font pas ce que nous on fait, on a tendance à s'énerver un peu.
C'est vrai, non, t'as raison de relever ça, c'est peut-être ça qui rend des fois un peu sanguin. La rencontre dans la myrmécologie, ben c'est vrai que moi, si les gens ne font pas comme moi, je m'en contrefous alors.
Moi aussi, j'avoue, même des fois, je suis peut-être faites pas comme moi, je suis pas sûr d'être le meilleur exemple.
C'est ça. Allez voir des gens qui ont des colonies matures depuis X années, ils savent faire.
Mais c'est vrai que je le dis peut-être pas assez, mais j'essaie quand même de le dire, je suis pas du tout un professionnel, je fais les choses... comme je pense qu'il faut les faire, mais je suis toujours entre guillemets un débutant, hein. J'apprends encore toujours plein de choses, donc Faites pas forcément ce que je fais, regardez ce que je fais, essayez de voir si c'est bien ou non et adaptez les choses. Ne prenez pas exemple sur tout ce que je fais.
C'est ça, allez voir différentes manières de faire et puis regardez qu'est-ce qui vous parle et puis essayez et puis faites quelque chose qui vous convient. Mais bon voilà, je voulais pas m'embarquer dans un débat sémantique sur la question de la passion, mais ça fait depuis un petit moment que je l'ai sur le cœur. C'est tombé sur toi qu'il fallait que je le dise à quelqu'un.
Non, mais c'est assez intéressant pour finir, je trouve, de parler un petit peu de tout ça, parce que, mais c'est vrai que dans le fond, du coup, on est tous un peu le même loisir, et c'est par contre un côté positif de ce loisir que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait de se rencontrer, même virtuellement. Par exemple, quand on s'est vu la première fois, c'est vrai qu'on se posait des questions, est-ce que ça va être bizarre ou non, parce qu'on ne s'est jamais parlé en vrai. Et
C'est
la
clair.
première fois qu'on s'est vu, où j'ai fait un petit tour avec du côté de chez Swiss For Me et de chez toi, et c'était fou. Chez Swiss For Me, je sais plus si je suis resté deux jours, je crois, où du coup j'ai dormi chez lui. C'était super drôle, on s'est super amusé. Chez toi, je suis resté toute une après-midi qui est passée, mais super vite, alors qu'on s'était jamais vu avant, et c'était passionnant. Et je pense que le fait d'avoir ce loisir en commun, ça, enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et pareil avec le tilitropode et du coup fourmi bio, c'était super cool. On s'était jamais vu, et le soir, on rigolait pendant 3 jours, on a beaucoup rigolé et tout. Enfin, c'est quelque chose qui est fou, je trouve.
Oui, mais effectivement, et il y a ce côté étrange où on voit les vidéos des uns et des autres, on a l'impression de se connaître, mais non. Et c'est vrai que cette rencontre, moi j'avais aussi beaucoup apprécié, j'espère que ça, on pourra le refaire. On est sur la bonne voie avec la pandémie, mais effectivement, il y a quelque chose, je pense, peut-être loisir, le mot loisir que j'utilisais est peut-être pas assez fort pour rendre compte de cet investissement de la myrmécologie. Il me faudrait peut-être un terme entre deux ou quelque chose comme
Ouais.
ça, mais effectivement, où ça crée du lien, ça crée de l'intérêt, ça crée de l'investissement. C'est des centaines d'heures par année qui sont investies juste pour s'occuper de ces colonies. Oh, peut-être pas des centaines d'heures pour s'occuper, mais des dizaines en tout cas. Et peut-être ouais, le mot loisir, peut-être tu as raison aussi de revenir là-dessus. Et je me reprends, le mot loisir est peut-être trop faible pour parler de
Ouais, entre
ça.
les deux, entre passion et loisir.
Ouais. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à nous mettre des mails pour nous proposer des mots.
Mais en tout cas, c'était super plaisant de faire ce podcast avec toi. Et pour ça, pourquoi je t'ai choisi pour ce premier épisode, déjà parce que je me rappelle que quand j'étais venu chez toi et qu'on avait décidé de tourner, au départ, je voulais juste qu'on parle quelques minutes pour mettre ça dans ma vidéo, parce que je me suis dit, ça peut être sympa de montrer que comment on peut discuter, de quoi on peut discuter, etc. Je trouvais ça sympa. Et finalement, on avait discuté une demi-heure et on s'était dit, là, faudrait s'arrêter. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer du coup de parler sans se presser pendant 1 heure, voir où ça nous mène. Et le courant était très bien passé sur la discussion.
Oui.
Et puis, beaucoup disent que tu as une voix agréable. Alors, je me suis dit que pour un podcast,
C'est ça, et
c'est plutôt pas mal.
on se pose, je me posais la question s'il fallait que je prenne ma voix des vidéos pendant tout le podcast et commencer à vous parler un petit peu comme ça. Parce qu'au quotidien, c'est pas tout à fait la voix que je prends. Et on s'était dit qu'une heure comme ça allait pas le faire. Mais effectivement, très, très agréable. Merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve que c'est une très riche idée, ce podcast. Si t'en fais d'autres, parce que je les écouterai, je pense, en allant au travail, dans la voiture, quelque chose comme ça.
Mon idée justement, et comme ça tu pourras me donner un peu ton avis en live, mais mon idée du coup c'était de, dans un premier temps, du coup de commencer par toi sur comment t'as découvert et tu t'es lancé dans l'élevage de fourmis. Et après, j'ai beaucoup d'autres idées du coup avec d'autres youtubeurs. Par exemple, je pense à Mirm qui a une association, donc ça peut être super intéressant de voir comment il a créé son association, etc. Le Tilitropode qui lui est dans les études de biologie et qui a une autre vision aussi, je pense. Donc je me suis dit que ça peut être intéressant de faire un podcast. Et enfin voilà, j'ai encore beaucoup d'idées par la suite. Du coup, ça va aussi dépendre des personnes qui écoutent, hein. Je ne sais pas encore trop comment ça marche. Je crois qu'on peut noter. Donc si jamais il y a, je sais pas, plein de 5 étoiles et qu'il y a des gens qui écoutent, je continuerai. S'il n'y a que 5 personnes qui écoutent, je me poserai peut-être la question de est-ce que c'est vraiment intéressant. Mais j'aime bien l'idée et le concept. Et j'avoue que si ça marche bien, j'aimerais vraiment un jour pouvoir faire en live. On se met à deux ou trois, par exemple, autour d'une table et on discute. Et il manque, c'est le petit côté qui manque là. Et j'avoue que ça serait le summum, on va dire, de ce que j'aimerais faire.
Ouais, ça serait, je pense que ça peut être effectivement assez chouette. Je ne peux que t'encourager à continuer dans cette voie, mais c'est vrai que on est un peu aussi pris par le retour des gens. parce que passer beaucoup de temps sur des choses qui ne suscitent que peu d'intérêt, c'est éprouvant pour le moral.
Voilà, c'est un peu un entre-deux que j'essaie d'avoir, c'est-à-dire des choses qui moi me plaisent, mais qui plaisent un minimum, c'est-à-dire que je cherche pas forcément à ce que ça plaise au plus grand nombre et que j'ai des milliers de vues, mais que j'ai pas non plus 5 vues. C'est un entre-deux en fait que j'essaie de trouver, quelque chose qui me plaît à moi, qui plaît aussi aux autres. Et j'espère que du coup l'idée de podcast peut être intéressante. Et pour finir, j'ai une dernière petite question. Est-ce que tu as
Ah.
des projets en tête que tu aimerais faire plus tard, qui aimerait, enfin que t'aimerais faire ou qui vont peut-être arriver, est-ce que t'as des même des idées comme ça qui te viennent?
J'ai des projets, le terme est peut-être un peu fort, mais des idées dans un coin de la tête. On avait pu en discuter brièvement. Après, au niveau de mes élevages, moi, bon, mon projet, si là on va appeler ça un projet, mais qui ne dépend pas que de moi, qui va dépendre de ma compagne. J'espère un jour pouvoir déménager et avoir une pièce entière pour l'élevage. Du coup, j'y vais avec cette idée-là, en espérant que j'aurai peut-être une demi-pièce, ce qui sera déjà une grande victoire. Ensuite, l'idée, ce serait à terme d'avoir une ou deux colonies matures à voir, et puis ensuite un peu de petites colonies avec, ou de faire de la coexistence, justement. Ça, c'était un truc qui m'intéresserait bien, d'avoir des espèces qui coexistent entre elles. Mais il faut que je me renseigne sur comment on peut faire ça, puis quelle taille d'aire de chasse il faut, et de terrarium, par exemple. Sinon, je vis un peu au jour le jour avec ma chaîne, et puis je regarde un peu au fur et à mesure. Mais s'il y a des gens qui ont des idées à me proposer, je suis absolument preneur. Mais non, moi, ce que j'aimerais bien une fois, mais on en a déjà discuté avec toi, avec d'autres aussi, c'est qu'on puisse se rencontrer une fois, toutes les personnes, et puis qu'on puisse inviter les gens qui nous regardent pour discuter avec eux, et puis échanger, et puis se boire un café ensemble, et puis pouvoir avoir du plaisir ensemble en live et pas que en différé. Ça, ce serait mon vœu sincère quand la pandémie permettra de le faire.
Et ben, j'espère qu'on pourra le faire l'année prochaine ou au moins essayer de lancer quelque chose dans ce sens-là parce que moi aussi, ça sera un petit peu le summum de. Ben, un peu de passer derrière un écran en fait. Déjà, l'étape moi où je suis allé voir des gens, etc., était vraiment cool. Alors, si en plus maintenant des personnes qui nous suivent, entre guillemets, on peut interagir avec eux de vive voix, je pense que ça peut être que super en fait.
Oui, absolument, absolument. Et dans les idées, juste je reviens là-dessus, c'est que je t'en avais parlé, tu m'as proposé de faire le podcast, je t'ai dit, ah mais j'étais en train d'y penser, mais pas le même type de podcast, donc ce sera peut-être l'occasion de compléter l'offre, et je m'excuse, mais je regarderai comment ça marche pour toi.
Non, mais c'est toute l'idée. J'avoue que moi j'aime beaucoup lancer de nouveaux projets et des fois de voir si ça marche ou non et si ça marche pas de l'arrêter. Et si ça marche, je trouve ça cool. Il y a un côté où, par exemple, si ce podcast marche, je trouverais ça cool que toi tu en fasses et même que d'autres en fassent parce que aborder un podcast, peut-être qu'ils le font d'une manière différente qui complétera ma vision et tout. Et moi j'aime quand les idées se propagent et d'autres personnes essayent, etc. Donc je peux que t'encourager aussi à faire un podcast et j'écouterai ça avec plaisir.
Tu resteras le pionnier dans plein de domaines sur les chaînes de Myrmécologie.
Mais des fois je pense que je me divertis, enfin je teste trop de trucs des fois, je sais que ça perd un petit peu des gens qui me disent ah j'ai plus regardé tes trucs là.
Ça, c'est l'enthousiasme. C'est ça qui fait. C'est ça, c'est pas une passion, c'est une activité enthousiasmante. Je
Ah ouais.
vais garder ça. C'est compliqué, mais je vais garder ça pour l'instant.
C'est pas ma passion, mais ça m'enthousiasme.
Ouais, c'est ça. C'est un cran en dessous. Je sais raison garder encore un tout petit peu.
On en reparlera quand on aura une pièce dédiée à.
Oui, c'est vrai
Là, tu.
que faut que j'arrête de me contredire toutes les 10
Non, c'est pas
minutes.
ma passion, mais si je peux acheter une maison avec une pièce pour les fourmis dédiée, je dirais
Voilà.
pas non. Mais je garde le contrôle quand même.
C'est ça. À qui est-ce que j'essaie de faire croire ça maintenant? Je me mens à moi-même.
C'est exactement ce que je pensais. Là, c'est encore une petite phase de déni, mais après.
C'est ça. Faut que je fasse sauter le verrou du déni, mais je sais pas si c'est une bonne chose. Mon
Eh ben
Dieu.
écoute, Merci à toi d'être venu dans ce premier podcast et d'avoir dit oui.
Ouais.
J'espère que ça t'a plu et que t'as aimé pouvoir en discuter. Je sais que t'aimes bien aussi parler, donc j'espère que d'avoir 1h15, là ça fait 1h15 qu'on parle, j'espère que du coup ça t'a plu. Moi en tout cas ça m'a beaucoup plu et...
Oui, ça m'a aussi beaucoup plu. C'est vrai que j'aime bien parler. Il faut me couper si une fois on remet ça. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été un grand plaisir. Et le dimanche après-midi a été mis à bonne contribution.
Et bah écoute, pour finir, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube hein, qui est du coup Fourmi des Plaines. Je pense que je mettrai les. J'avoue que je sais pas encore si je peux mettre des liens ou des choses comme ça. Je découvre un petit peu. Mais n'hésitez pas à marquer Fourmi des Plaines sur YouTube
Au
si vous aimez
singulier.
les histoires. Exactement, j'avais fait l'erreur au début avec un S. Si vous
Ouais.
aimez les histoires autour des fourmis et aussi de très belles images.
Merci.
Et bah écoute, on va se dire à la prochaine. Hein.
Oui, dans la joie et la bonne humeur.
Allez, bye bye tout le monde.
Salut.